Soyez les bienvenus ce dimanche matin, Tendance Confidence, avec aujourd'hui les confidences d'un chef d'orchestre avec qui nous allons tenter d'aller au cœur de la vie de la musique. Vincent Barthes, bonjour.
Bonjour.
Alors avec la musique de votre voix, commençons par écrire la partition musicale de cette émission de ce dimanche matin. Les deux mots-clés sont cœur et vie, que vous inspirent-ils ?
Le cœur, c'est ce qui bat. C'est donc l'impulsion, c'est donc l'énergie, c'est le souffle, c'est aller de l'avant. Et puis la vie, eh bien la vie c'est une trajectoire, c'est construire un itinéraire, c'est construire un parcours qui aille le plus loin possible dans la quête de la beauté et dans l'harmonie la plus totale. Voilà, un chemin le plus long possible grâce à un cœur battant.
Alors, qu'aimez-vous dire lorsque vous parlez de votre métier de chef d'orchestre, qui est aussi une passion, qui donne à entendre une partition musicale ?
Eh bien, il y a une partition, effectivement. Il faut essayer de la jouer en faisant en sorte que tous ceux qui concourent à faire sonner cette partition, à l'incarner, c'est ça qui est extraordinaire. Quand on a la chance de travailler avec des compositeurs vivants, qui sont avec vous dans la salle au moment où vous répétez, ça c'est extraordinaire. Mais quand vous reprenez du Beethoven, du Mozart, du Mahler, du Bruckner, les compositeurs ne sont plus là. Donc à partir de simplement des signes couchés sur le papier, vous avez cette responsabilité mais incroyable. Je pense que c'est une composante de la création, ça. Je pense que l'interprète, à ce niveau-là, participe autant de la création, peut-être, que le créateur originel. Vous avez cette responsabilité de faire sonner cette partition dans la fidélité la plus absolue à ce qu'il a probablement entendu et voulu coucher sur le papier. Donc, il y a déjà une dette, parce que les génies, ce sont eux, ce sont pas nous.
Mais l'orchestre que vous dirigez n'est-il pas aussi un instrument de musique ?
L'instrument, c'est l'orchestre. Vous êtes un musicien parmi d'autres, évidemment, mais vous êtes un musicien sans instrument. Et l'instrument, c'est l'orchestre. Donc essayez peut-être, avec le recul que vous avez, de guider les musiciens, de leur faire comprendre que ce vers quoi vous les orientez, les dirigez, si je puis dire, ben c'est pour se rapprocher le plus possible de la vérité de la partition et de ce que le compositeur a écrit. Alors quand vous faites la cinquième de Beethoven pour la je sais pas combien de fois, enfin face à un orchestre qu'il a joué déjà avec des grands chefs, etc., et que vous arrivez un peu plus jeune et plus inexpérimenté, c'est pas évident. Il faut essayer d'être persuasif, d'être convaincant, d'être sincère, donner l'impression à chaque musicien que vous dirigez vraiment pour lui, et puis d'être convaincant dans l'idée de faire sonner en équilibrant les plans sonores, en disant là vous êtes plutôt secondaire, là vous êtes primordiaux, là regardez cette ligne comme elle ressort bien par rapport à celle-là, et là c'est plutôt celle-là qu'il faut faire passer en premier. Vous voyez, vous avez votre palette vivante avec les couleurs sonores, et il faut essayer de disposer ça dans le temps et l'espace de manière harmonieuse, convaincante, qui fasse sonner, qui se dise ah oui, c'est, je crois qu'on se rapproche un peu là.
Chaque personne est composée de plusieurs membres. Vous qui êtes chef d'orchestre, comment faire corps avec toutes ces personnes qui sont derrière les pupitres, qui vont participer avec vous à l'exécution de l'œuvre? Est-ce que vous sentez là une complexité qui devient de plus en plus marquante pour vous?
Vous avez un bloc un peu de granit, fait de musiciens, enfin vivants, mais en même temps de granit, dans la mesure où les musiciens se connaissent. Et toutes ces paires d'yeux et d'oreilles sont orientées vers un chef qu'ils connaissent moins ou qui rencontrent pour la première fois. Et là, vous voyez, il y a un rapport de force qui est pas forcément très équilibré. Donc déjà, faut être en paix avec soi-même. Faut se dire, bon, bah, je suis là, je vais rencontrer cet orchestre. C'est une grande, grande joie de faire de la musique incarnée, de la musique vivante. Mais faut avoir une certaine confiance en soi et aussi peut-être dans la providence ou dans la manière dont vont se passer les choses et qui vous dépassent. Faut être très prêt, je veux dire préparation, travail de la partition. Un orchestre qui a l'impression que le chef apprend sur son dos, ça c'est pas bon. Et c'est pas bon du tout. Vraiment connaître parfaitement sa partition et puis parler peu. Les chefs en répétition qui parlent beaucoup, les musiciens, ça les fatigue.
Et y a-t-il une règle d'or qui vous tient particulièrement à cœur en tant que chef d'orchestre, Vincent Barthes ?
Parler peu et montrer beaucoup. Bernstein nous disait, voilà, quand on essayait jeune bleu, 21 ans, 22 ans, en culotte courte encore, et avec des géants comme lui, vous sentez sa présence derrière, son aura, son charisme. Don't talk, just do it. Faites-le, juste, montrez-le. Vous voyez, le corps est très important pour le chef. L'expression. Alors, gérer l'attention, avoir de l'humour de temps en temps, montrer que, voilà, on prend les choses un petit peu avec du recul aussi. Et puis, ne pas perdre de vue l'idée de la partition qu'on a, mais en même temps, d'être flexible et d'être très soumis. Parce que quand on travaille sa partition à la table, c'est l'oreille intérieure, voyez, on imagine ce qu'on veut entendre. Mais quand vous travaillez une symphonie, un orchestre va vous donner quelque chose dans la lecture. Pendant que vous lisez ou vous travaillez, il va vous donner. Donc c'est, je donne, mais je reçois aussi.
Vous donnez et en même temps vous recevez. Quelques mots sur cet instrument vivant qui est aussi la voix.
Ah oui, oui, ça c'est merveilleux. La résonance, la vibration, c'est l'instrument primordial. Les instrumentistes aussi, imaginez un violoniste, le nombre de les vibrations aussi, hein, violoncelliste, même la flûte, hein, quand vous soufflez comme ça dans une embouchure, où les vibrations vous en avez, mais évidemment la voix ça part complètement de vous quoi. Donc effectivement, quand on dirige le Requiem de Mozart ou qu'on a des chanteurs juste à côté, oui, je pense que c'est une magie quoi. C'est un métier extraordinaire quand on peut le faire dans de bonnes conditions.
Et la place du silence, comment accorder cette place au silence après Mozart? Quand il y a du silence, c'est encore Mozart.
Bien sûr. Il ne faut pas qu'on oublie que la musique naît du silence et qu'elle y retourne. Et que le silence ne cesse de la jalonner, si je puis dire. Le début, le moment où on va lever la baguette, on va regarder les musiciens et on va dire c'est la respiration primordiale et hop. Mais effectivement, s'il n'y a pas cette qualité de silence qui est donnée par le chef, par les musiciens. Mais vous voyez, c'est ce que j'appelle un petit peu le cercle vertueux. C'est-à-dire que quand les répétitions avec l'orchestre se passent bien, le chef est encore plus stimulé par cette relation humaine et artistique qu'il avait avec les musiciens, qui est finalement qu'on peut résumer par une expression, relation de confiance, tout simplement.
Et j'imagine la qualité d'écoute aussi de la part du public.
La qualité d'écoute du public, c'est tellement important pour la qualité d'une interprétation. Vous entendez un silence de vie, pas de mort. Vous avez encore envie de donner davantage. Même l'orchestre est saisi par silence. Donc vous investissez encore plus. C'est vraiment ce que j'appelle le cercle vertueux. Et ça, c'est absolument magique. Mais pour ça, comme vous le dites, il faut qu'il y ait le silence du début. Et quand vous avez des points d'orgue, la transition entre un mouvement et un autre, la musique, elle ne peut pas naître sans un silence habité.
Vincent Barthes, vous êtes l'invité de l'émission Tendance Confidence. Avec vous, nous allons au cœur de la vie de la musique. Vous nous donnez quelques clés pour mieux entrer dans le mystère, y compris le silence qui est également présent sur les partitions. Vous êtes passionné également par la Bretagne. Quelques mots sur cette belle région.
Oui, j'ai eu la joie de diriger l'orchestre de Bretagne dans les années 90. J'ai même fait un disque avec l'orchestre de Bretagne et un trompettiste merveilleux qui s'appelle Éric Aubier, un florilège de concerto pour trompette et orchestre, dont celui de Haydn.
Votre magazine Tendance Confidence, aujourd'hui avec un chef d'orchestre, Vincent Barthes. Avec vous, continuons de parler de cette belle passion qui est la vôtre. Que ressentez-vous lorsque vous dirigez un orchestre en l'absence ou avec un public?
Le public est absolument partie prenante. Sans public, bon, on répète, on fait des générales sans public. Mais ça n'a rien à voir. Je veux vous dire que déjà, les musiciens et le chef savent qu'il va y avoir le public. Donc, la motivation n'est pas la même. Parce que c'est tout d'un coup du vivant qui vient remplir une salle disponible, quoi. Mais une salle qui a été vide pendant toutes les répétitions. Ça, c'est absolument fantastique. La présence incarnée du public. Et moi, je réfléchis à la manière de faire en sorte que l'écoute du public soit aussi la plus dressée possible. Vous voyez ce que je veux dire? La plus tendue possible. Et j'ai fait pas mal d'expériences. On fait venir des gens dans l'orchestre. Ils sont juste à côté du pupitre de violon. Ils sont à côté d'une clarinette. Ils sont à côté des timbales. Ils sont juste à côté d'une contrebasse. Mais vous voyez, ils sont complètement intégrés dans le magma sonore, si je puis dire. Quand ils sont dans la salle, séparés, nettement séparés, clairement séparés de l'orchestre, ils ne soupçonnaient pas justement ces vibrations dont vous parliez, ces résonances, cette manière de jouer, de vivre ensemble, de respirer ensemble. Quand ils sont au milieu, dans l'œil du cyclone et dans le cratère du volcan, là, je peux vous dire que ça bouillonne.
En écoutant un orchestre, vous donnez à voir aussi une œuvre. Quel est le sens qui est le plus en éveil? L'ouïe, le toucher?
Oui, le toucher, je pense, pour les instruments, c'est quelque chose de très important. Je dirais évidemment la vue et puis l'ouïe, bien sûr. C'est Boulez qui disait, écrire de la musique, c'est l'œil qui imagine l'oreille. Un œil qui écoute, je veux dire. C'est ça aussi, diriger. C'est l'œil qui écoute. L'attitude des musiciens aussi vous stimule à écouter ce qu'ils vous donnent et à vouloir, vous aussi, essayer de les orienter vers une direction. Symphonie, mosaïque, symphonie, ça veut dire accord de son, c'est un beau mot. Hein. C'est-à-dire accord de son, symphonie, le grec.
Accord de son, symphonie, n'est-ce pas le plus beau cadeau que vous puissiez offrir aux compositeurs de cette œuvre musicale?
Et évidemment, il faut jamais oublier que nous sommes au service de... Nous sommes des musiciens, instrumentistes ou chefs ou chanteurs, au service d'un art et au service des grands génies qui ont dédié leur vie à cet art. Donc toujours vraiment chef. C'est pour ça, chef, j'aime pas bien. Les Anglais disent conductor, vous voyez, celui qui conduit. Voilà, celui qui conduit un peu, qui va orienter, qui va fédérer les énergies. Manuel Rosenthal aussi, qui est un très grand chef, nous disait il y a trois sortes de chefs. Vous avez les chefs qui empêchent de jouer. Vous avez les chefs qui laissent jouer. Et vous avez les chefs qui font jouer, donner envie de jouer, donner envie de s'investir. Voilà.
Et lorsque nous parlons de la musique, préférez-vous parler d'artiste ou d'artisan de la musique ?
Artisan. J'aime bien le mot artisan. Parce qu'avec ses seules mains, il pétrit une pâte. On est d'accord ? Il pétrit une pâte humaine et il pétrit une pâte sonore. Donc, artisan, oui, oui et oui.
Vous êtes sensible à la transmission des valeurs. C'est la vocation de l'Orchestre Symphonie Mosaïque que vous dirigez en Vendée. Donc des notes comme des semences pour que germent des vocations au service de la musique, encore une fois.
Oui, absolument. La rencontre de plusieurs générations, la rencontre de plusieurs styles de musique, la rencontre de plusieurs répertoires, la rencontre de plusieurs publics. C'est à ça que j'ai pensé en proposant Mosaïque. Une structure à vocation professionnalisante. Imaginez un jeune qui a peut-être très peu fait d'orchestre en dehors du conservatoire, qui va jouer une symphonie de Mendelssohn à côté d'un musicien professionnel, en concert, au deuxième rang du pupitre de violon, ou qui va de temps en temps relayer la flûte solo pour faire un solo. Il y a la transmission peut-être d'un savoir, d'une maîtrise, mais surtout d'une joie, d'une passion et d'un enthousiasme, parce que sinon ça leur donne pas envie.
En quoi une musique peut-elle être sacrée ? Pourquoi une musique sacrée ou une musique profane ?
Au sens, si vous voulez, un peu strict, la musique profane, étymologie profanum, qui reste devant le temple, donc c'est la musique qui n'est pas, si vous voulez, religieuse, ou qui n'est pas liée à des paroles vraiment divines, requiem, messe ou oratorio, etc. La musique peut être prière aussi. Autant une cantate de Bach peut être prière qu'un mouvement lent d'une de ses suites pour violon seul, ou un mouvement lent d'une sonate pour piano. Vous savez, j'aime beaucoup ce mot « enthousiasme ». Enthousiasme, ça veut dire dans le souffle de l'énergie créatrice. Mais l'énergie créatrice, on peut considérer que c'est Dieu aussi. Beaucoup de religieux d'ailleurs le disent. Il y a une rencontre qui va se créer entre moi et cette œuvre, rencontre qui est absolument unique. Et cette œuvre va être d'autant plus unique pour moi qu'elle peut me révéler des vérités que je ne soupçonnais pas. C'est ça la profondeur d'une œuvre aussi. C'est Alexandre Vialat qui disait ça. Le plus grand génie des grands artistes n'est pas de nous révéler leur vérité, mais la nôtre.
En quoi l'enseignement de la musique, sa pratique et son partage peuvent-ils participer à la construction d'une vie ?
Parce que je pense que la musique nous familiarise avec tout ce qui recherche l'harmonie. La musique, c'est partager. On ne peut le partager que si on a envie de le partager, si on a ce désir de se diriger vers l'autre, sans animosité, sans défi, sans haine, sans malveillance, et qu'on a envie de regarder dans la même direction. Je pense que la musique permet d'être passeur de vie, passeur de vérité, passeur d'authenticité, passeur de beauté, dans l'espace et dans le temps. Parce qu'elle diffuse une énergie, elle diffuse des ondes, elle diffuse des vibrations qu'il y a peut-être moins dans d'autres arts. L'imprévu du vivant, l'imprévu des émotions qui vous submergent et que vous avez envie aussi de communiquer et de partager. C'est ça le miracle de la musique vivante.
Existe-t-il selon vous une perfection du langage musical, que ce soit au niveau du rythme, de la mélodie ou des harmonies ?
La perfection, je pense, n'est pas de ce monde. Ceci dit, quand vous jouez du Mozart, vous vous dites on est dans la perfection, on est dans une forme de transcendance. Quand vous sortez d'une symphonie de Brahms, vous vous dites c'est incroyable. Même de la musique de film de Georges Delerue, où vous dites quelle beauté, quelle correspondance par rapport aux images. Il y a le sentiment d'une puissance créative parfois atteinte, mais La perfection avec un grand P, non, ça n'existe pas. On peut toujours creuser le sillon de la qualité. On peut toujours creuser le sillon de l'exigence, de l'amour exigeant. Oui, il y a trois sortes d'amour, en fait. Il y a l'amour sans exigence qui diminue, l'exigence sans amour qui décourage, et l'amour exigeant qui grandit. Il faut essayer de trouver ça, et je trouve l'expression artistique, elle est le lieu d'essayer de mettre en œuvre le défi de cet amour exigeant.
Quelle est cette citation que vous pourriez emprunter à un compositeur et qui peut-être pourrait correspondre à votre devise ?
J'aime bien ce que dit Proust de la musique. Alors, de mémoire, hein, la musique pourrait être, s'il n'y avait pas le langage, la musique pourrait être le meilleur vecteur et la meilleure expression de la communication des âmes.
Et au paradis, dans l'orchestre symphonique du paradis, Vincent Barthes, qui comme chef d'orchestre, et puis quel musicien aimeriez-vous pouvoir entendre dans cette symphonie artistique du ciel, cette harmonie céleste?
Oui. Qui comme chef d'orchestre, il y en a plusieurs, hein, mais Bernstein, parce que j'ai travaillé avec lui, donc pour moi c'est l'un des plus grands génies. Mais musicien, sans hésiter, Bach.
Et que direz-vous à Dieu au paradis?
Seigneur, j'ai fait ce que j'ai pu, j'espère que c'était pas trop mauvais. Et j'espère que c'était pas trop dissonant.
Qu'aimeriez-vous qu'il vous dise au paradis?
Entre au château du ciel, tu vas y entendre la plus belle musique.
Merci Vincent Barthes pour ce temps accordé à cette émission.
Merci à vous.